Léon-Paul Fargue, les caractéristiques de l'humour français. L'humour français, au sens spécial que l'on donne au mot humour, fait son apparition au siècle dernier. Il venait compléter l'esprit de Rabelais, de Rivarol, de Molière ou de Musset, ou plutôt lui ajouter cette nuance que lui demande une civilisation soudain accélérée, de Paris à Marseille, en passant par le sel et le poivre de toutes les provinces assemblées. La France vit sur deux sortes d'esprits. Le premier est celui des mots. Oh, c'est le plus naïf, le plus accessible. C'est celui du calembour, du coq à l'âne, du quiproquo voulu. On le nomme assez bien un esprit de commis-voyageur. Et on le trouve dans les almanachs populaires, dans les pensées d'un emballeur, voire dans certains distiques de Victor Hugo, le jongleur des sons. L'autre esprit, dont la capitale est la grande source brillante, provient de l'observation, de la comparaison, du parallèle, du démon de l'analogie, des rapports inattendus entre les choses entre elles, ou encore du mot, mais cette fois-ci du mot bien choisi, d'un mot qui pousse à la réflexion, au jugement, au retour sur soi, voire à l'examen de sa culture particulière. C'est l'esprit de Champfort, de ce Rouen, que celui de Rochefort, de Jules Renard, d'Alfred Capus, de Gavarni et de Clémenceau. Oh, il peut n'être qu'un jeu de raquettes, que si l'on veut, mais il peut aussi aller assez loin, très loin même par sa concision et par sa justesse. Et c'est la réunion étincelante de ces deux, parfois non préméditées, qui a permis les réussites, les œuvres et les manières les plus diverses. Molière, Beaumarchais, Marivaux, Flaubert, celui de Bouvard et Pécuchet, Feydeau, Courteline, Alphonse Allais, celui si près des conceptions d'un Dickens, au théâtre du boulevard, et enfin, triomphe du genre, inconnus ailleurs, les cabarets parisiens, Ross, le théâtre du boulevard, et enfin, triomphe du genre, inconnus ailleurs, les cabarets Ross. Nous ne songeons pas à étonner personne en révélant qu'il y a dans l'humour, au sens le plus strict et le plus net du terme, un fond de mélancolie, de chagrin, de désillusion. Ce sont les plis aux lèvres après le sourire, et comme une méditation après l'hilarité. Au clavier de cette gaieté qui a ses ombres, la France a ajouté, en tout temps et en tout lieu, la cocasserie, la gaieté franche et claire, du sarcasme sans dessous, une ironie autour plaisant. Sans doute, nous connaissons, comme un trésor étranger, des formes d'humour pur, mêlé de regret, d'amertume, et de quelques pointes de feu. Je ne citerai que deux exemples. Le « Bon appétit, messieurs, ô conseillers intègres » du Ruy Blas de Victor Hugo et le « Soupir de poil de carotte » de Jules Renard. Mais tout le monde ne peut pas être orphelin. Ce sont des formes d'humour romantique, appelées par le contexte. Mais la vérité de l'humour français est ailleurs. Elle est plus humaine, plus cordiale, corsée souvent, pour ne pas dire épicée à la diable. Elle relève toujours du cœur, qui parfois n'ose pas dire son nom, ou du rire spontané. Voyez Daudet, Lucien Guitry, Maurice Donnet, Tristan Bernard, pour ne citer que les maîtres. Mais écoutez surtout le murmure des cabarets, spécialement parisiens, ceux du Quartier Latin ou ceux de Montmartre. Pendant l'occupation, ils ont tous tenu la dignité très haute. Ils ont eu le mot pour rire avec l'intention de qui console. Ils sont généralement, et pour le plus grand bien des choses et des gens, des tribunaux. Que de fois nous avons vu qu'ils détenaient le pouvoir suprême, le chemin qui va du couplet à la loi est moins caché qu'on ne croit. Il y a une raison toute simple dans cette puissance, c'est que l'esprit français, quels que soient les feux d'artifice et les étincelles, n'oublie pas que très loin, mais qui écoute toujours, personnifié tantôt par l'aristocratie intellectuelle, tantôt par le peuple, il y a Boileau, il y a Voltaire. Oh, il ne s'agit pas d'encourir les critiques de ces deux maîtres. On le sait, dans les couloirs de la chambre, comme sur les planches des petits théâtres. Ajoutons enfin que l'humour français s'enrichit chaque jour de la sensibilité des écrivains. Il n'en est pas qui n'ait traversé les zones plaisantes avant d'aborder les continents sérieux. Et le temps n'est pas si ancien où Bourget, Barrès, Lemaître, Anatole France, d'autres encore, apportaient leurs plumes fines et spirituelles aux joyeux magazines. De nos jours, Marcel Pagnol suit l'exemple de Maurice Donnet. Pour celui-là, l'Institut a été visible de la Canebière, pour celui-ci de Montmartre. Qu'on aille le chercher au Chat Noir, pépinière d'humoristes, où les chansonniers doivent faire leurs premières armes, pousser le premier là, dans la presse quotidienne si riche de courts chefs-d'œuvre, ou encore chez les dessinateurs, c'est toujours le même humour qui classe les gens, fait le compte des talents et fixe la valeur. Il y a 1100 points communs entre Forain, Maupassant, Courteline, Duvernois, Deflair, Mirande, jusqu'à Jean Eiffel et Marcel Aimé. Il y a de l'humour, et de quelle étoffe! Dans certains récits de Barrès, dans les chroniques de Laurent Taillade, un fil charmant va de Villon à Tristan de Rême et à Carcot. On trouve chez les anonymes du XVIIIe siècle une sorte de grâce pudique et, si l'on peut dire, des fleurs mordantes qui apparaissent chez les chroniqueurs et les poètes de la toute plus dernière minute. Cette philosophie secrète, dite tantôt vertement, tantôt angéliquement, est pour le lecteur ou le spectateur comme une suprême politesse. On en connaît le maniement et les ressources. Dans le salon le plus noble comme dans une brasserie. Le succès général qui va en profondeur, qui arrive de partout, à des Maurice Chevalier et des Charles Trenet, qui maintiennent partout, tous les jours, dans le théâtre du Palais Royal et les petites scènes de la place Pigalle, ont établi assez que l'aliment humour est riche et immortel.